la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » sur Jet FM et cette semaine, je lire différentes publications, plus ou moins récentes, et on va faire un petit chemin par le biais d'écrivains et d'écrivaines pour relier entre elles toutes ces publications. Je commence par quelques livres de Marielle Massé, une autrice dont vous avez peut-être déjà entendu parler. J'avais notamment pas mal évoqué sur cette antenne un très joli petit livre baptisé « Nos cabanes » publié il y a quelque temps aux éditions Verdier dans cette petite collection jaune de poche. Et elle vient d'en publier un il y a très peu de temps baptisé « Respire » que je n'ai pas encore ouvert mais que je vais lire très bientôt puisque c'est l'objet notamment d'une rencontre le 10 janvier 2024 à la librairie Durance à Nantes. J'aurai l'occasion d'en reparler. Mais de fait, je replonge un peu dans l'écriture de Marielle Massé. Outre Nos cabanes et Sidéré considéré, qui avait donc été publié chez Verdier, il y a un très beau gros volume baptisé Une pluie d'oiseaux dans la collection Biophilia chez José Corti, qui a été publié il y a une grosse année et qui coûte 23 € avec en dessin de couverture et à l'intérieur quelques très belles œuvres de Yana Andreadis dans la série Murmuration. La murmuration, qu'est-ce que c'est ? C'est le rassemblement des oiseaux, notamment des étourneaux, ces rassemblements souvent à la tombée du jour, dont on ne sait pas toujours bien de quoi ils retournent, quelle est cette sorte de rituel. C'est aussi une manière de langage. Et dans ce très épais livre qui fait quelques 375 pages et dont j'ai lu les deux tiers, eh bien, Marielle Massé revient de manière thématique sur la question des oiseaux. En trois grandes parties, émerveillement, attachement, or, voici que les oiseaux tombent, et reprendre la conversation. Beaucoup de ces réflexions sont issues notamment du premier confinement de 2020 où les gens se sont émerveillés de réécouter les oiseaux, alors même que leur population disparaisse de plus en plus dans cette grande extinction, la sixième extinction de masse que nous vivons ces temps-ci. C'est un peu toutes ces réflexions que tisse Marielle Massé dans cet ouvrage, où elle a beaucoup lu et elle a beaucoup questionné ce rapport aux oiseaux et elle en fait la synthèse, mais une synthèse conséquente et très étayée, avec beaucoup de citations, beaucoup d'exemples choisis au sein de certains ou certaines écrivains et écrivaines qui ont largement travaillé sur la question des oiseaux, comme Dominique Mintz par exemple, avec sa magnifique Ornithologie du promeneur, ou encore et surtout Fabienne Raffoz, qu'elle cite à de nombreuses reprises dans ses différents ouvrages. Elle en extrait de larges citations. Ou encore, comme ici pour vous donner un exemple, page 79, dans la première partie de cette pluie d'oiseaux, Claude Lévi-Strauss qui est convoqué pour la question des origines de la couleur. Plusieurs mythes racontent l'origine de la couleur des oiseaux avec des résonances cosmologiques, convoquant l'arc-en-ciel, traçant un lien entre les ordres biologiques et cosmiques, éclairant l'importance des plumes dans les parures. Lévi-Strauss a rapporté des histoires assez proches, issues des régions d'Amérique, pourtant très éloignées les unes des autres. Un petit dieu trompeur dévore un enfant, ou s'attaque à une femme, sa nourrice, lui jette un sort et bouche avec de la cire tous ses orifices, ou, c'est selon, l'enferme dans un arbre. Les oiseaux viennent à son secours, mais seul un tout petit pic parvient à percer la cire ou la peau ou l'écorce. Le sang jaillit et couvre les oiseaux de taches rouges, tous sauf le corbeau, éclaboussé de déjections ou de sang noirci. Un autre mythe explique qu'en se baignant dans le sang du serpent, les oiseaux non encore distincts des humains se changèrent en oiseaux véritables. Le bain les fit d'abord tout rouges, mais la pluie se mit à tomber et dilua le sang. La rame à chaos qui s'était hâtée resta rouge. Rouge aussi le cou de la Pénélope, la pointe des ailes du Hoko, la poitrine du Kourou-Kourou, le bec du Tangara. Faute de sang, le perroquet et la perruche se teignirent avec de la bile verte. Lara Ararona fit de même, mais sous la pluie, la bile vira au bleu et au jaune. Quant à l'aigrette, elle se roula dans la cervelle. Ainsi, conclut le mythe, furent tatoués tous les oiseaux, grands et petits. Lévi-Strauss insiste sur l'importance de la distinction des couleurs. Si les couleurs se fondent les unes dans les autres, c'est le malaise qui surgit. Quand les couleurs franches se combinent pour former une polychromie sans équivoque, cela procure en revanche à l'esprit un sentiment de sécurité. Les Indiens ont d'ailleurs inventé ce que les vieux voyageurs français appelaient le tapirage, pour donner aux plumes des couleurs franches. Ils plumaient vivants des perroquets élevés en captivité, les frottaient avec les sécrétions de certains crapauds ou grenouilles et des substances végétales. Les plumes repoussaient de la couleur désirée, en général un beau jaune. Au sein de nos cultures, ajoute Lévi-Strauss, c'est la différenciation des sons qui a joué ce rôle ordonnateur, contre ce que justement on appelle les chromatismes, les petits intervalles sonores associés comme l'arc-en-ciel par les Amérindiens à l'expression de la souffrance ou du deuil. Voilà pour un petit extrait de « Une pluie d'oiseaux » de Marielle Massé dans la collection Biophilia des éditions José Corti pour 23 euros et 375 pages très complètes sur notre rapport étonnant et souvent fantasmé aux oiseaux. Et alors Marielle Massé a aider à mettre en forme, à coordonner un numéro récent de la revue 303, cette revue publiée par la région des Pays de la Loire, mais c'est une association indépendante, les éditions 303. Cette revue trimestrielle qui connaît à chaque numéro une thématique, et donc le numéro 177, publié à la rentrée 2023, est consacré aux oiseaux. Les oiseaux. Marielle Massé en signe l'éditorial ainsi que deux articles et il y a un certain nombre d'invités qui écrivent sur les oiseaux. Alors j'en attendais beaucoup de ce numéro et j'avoue avoir été un peu déçu à la lecture. Non pas qu'on n'apprenne rien et que ce ne soit pas comme souvent très intéressant et très richement orné d'illustrations, de photos, de dessins qui permettent de comprendre aussi au-delà des textes de quoi il s'agit. Mais il y a dans l'écriture de Marielle Massé sur ses articles notamment quelque chose qui m'a laissé un peu à côté et que je trouve moins puissant que dans l'écriture de ses livres, peut-être parce que ça survole plutôt que ça avance en profondeur. Mais elle a eu l'intelligence, l'intérêt de faire venir justement dans ce numéro eh bien, les personnes qu'elle côtoyait ou qu'elle a lu pour le livre dont je viens de vous parler, notamment Fabienne Raffoz, qui vient proposer un texte baptisé « Pourquoi l'oiseau ?». Il y a aussi un essai de Bastien Gallet sur la musique, où l'on retrouve Olivier Messiaen, bien sûr, mais aussi Luc Ferrari. Le texte est peut-être un rien abscon et manque d'un apport très direct à la musique, peut-être, mais c'est justement parce que Bastien Gallet s'intéresse aux sonorités et non directement à la musique qu'il peut trouver un certain intérêt. Et puis, il y a un très joli texte d'Anthony Poiraudeau, habitué de la revue 303, qui propose la très ancienne apparition d'oiseaux, c'est-à-dire une plongée dans la grotte Margot, dans la Mayenne, qui est ornée de beaucoup de gravures du Paléolithique, et notamment un exceptionnel nombre d'oiseaux, un thème dont il dit qu'il est assez rare dans l'art pariétal préhistorique. Je ne suis pas spécialiste, mais je le crois volontiers. Et à travers son texte, et puis quelques photos et reproductions, on voit en effet cette figure d'oiseau très troublante qui apparaît comme presque gommée. C'est un des textes très intéressants, très puissants de ce numéro consacré aux oiseaux de la revue 303, le numéro 177. La revue coûte 15 euros pour 96 pages et est apparue en septembre 2023. Mais depuis, un autre numéro est paru autour de la nuit. Autre thématique fascinante, intéressante. Le numéro 178, donc, vient de paraître pour le même tarif, 15 euros, et pour la même pagination, 96 pages. Et c'est un numéro avec une très belle couverture de Jérôme Maillet qui signe un certain nombre d'illustrations à l'intérieur de la revue. Cette thématique, la nuit, permet de déployer différents aspects. Le numéro a été un peu coordonné, éditorialisé par Frédéric Letourneux, qui est une habituée, elle aussi, de la revue 303 et qui signe souvent des papiers fort intéressants, très sociaux et politiques. Ici, justement, elle revient sur la question de la nuit dans le travail. Travail de nuit, travail de la nuit. article très intéressant sur les débordements, notamment du droit du travail, depuis que la nuit n'a plus de limites, depuis que l'éclairage a colonisé la nuit. C'est l'entrée de son article. Il y a un autre article plus social et politique aussi, c'est celui de David Prochasson, qui parle des luttes militantes et de comment la nuit favorise le moment de la lutte militante, que ce soit les collages, les tags ou les actions qu'on peut mener à la faveur de la nuit pour dire quelque chose dans l'espace public, notamment dans la ville. Il y a aussi des rêveries plus artistiques et poétiques. La nuit des fantômes, c'est un texte de Thierry Froger qui parle du cinéma et du lien étroit entre la nuit et les dispositifs du cinéma depuis ses origines. Et puis on retrouve Anthony Poirodeau pour un article étonnant et toujours aussi intéressant, peut-être probablement par sa plume, autour des lentilles mises au point par Augustin Fresnel au début du 19e siècle, qui permettent aux phares d'éclairer de belle manière les côtes pour que les marins ne se perdent pas ou ne prennent pas les récifs. On a donc une étude de cas sur les phares et avec des lentilles qui, pour certaines, ont été fabriquées dans la région. Et à travers ce texte, eh bien, Anthony Poirodeau éclaire la nuit. Il y a aussi une jolie nouvelle autobiographique de Éric Pessan qui propose une promenade dans la forêt qui jouxte sa demeure dans la Sarthe. Et une promenade évidemment nocturne où il essaye de saisir ce qu'il reste d'animaux sauvages et de se faire le plus discret possible dans cette promenade. Promenade illustrée de nouveau par les très beaux dessins de Jérôme Maillet. Ce numéro consacré à la nuit vient de sortir, donc c'est le numéro 178 de la revue 303 pour 15 euros. Et alors, on retrouve Anthony Poirodeau dans une autre revue, alors dont je parle très souvent en compagnie de la revue 303, et c'est un peu un hasard, mais peut-être que leurs sorties sont communes à certains moments. C'est la revue La moitié du fourbi qui sort deux fois dans l'année, et c'est donc le numéro de l'automne 2023, numéro 13, qui vient de sortir. La moitié du fourbi, c'est une revue au format grand roman, assez souple, avec là aussi une belle couverture qui, et c'est étonnant, revient presque sur la nuit puisqu'on y voit des étoiles. Il s'agit en fait de fragments de très beaux dessins de Clément Vuillet, je vais y revenir, les dessins qui sont dans le livre Terre rare. Une fois, c'est écrit en gros sur la couverture, car La moitié du fourbi, c'est une revue littéraire qui propose à des écrivaines, écrivains, des créateurs, ça peut être aussi des photographes, des dessinateurs, des gens qui ont à voir avec la création et l'art, on va dire, et leur propose, comme le sous-titre l'indique, de la littérature et des appels d'air, puisque chaque fois, un mot ou quelques mots ou une notion est donné en pâture pour créer. Il s'agit donc à travers de une fois de raconter des choses qui peuvent s'être passées une fois ou peut-être prendre au pied de la lettre ce côté « il était une fois ». Bref, chacune et chacun s'en est emparé à sa manière et ça donne de nouveau une très jolie revue qui est très stimulante, qui est décorrélée complètement de l'actualité, même si parfois il y a certaines références qui peuvent amener un regard sur les moments contemporains que nous vivons, mais qui surtout prend un pas de côté ou un peu de hauteur pour donner à lire et donner envie d'aller lire. On retrouve donc Anthony Poirodeau, qui fait partie du comité éditorial de cette revue, et qui propose un texte très étonnant baptisé « Vie et mort de Jeanne d'Arc après le bûcher ». Car, le saviez-vous, il semblerait que Jeanne d'Arc ait continué d'exister après le bûcher à Rouen. C'est tout à fait étonnant comme postulat, mais voici comment Anthony Poirodeau explique la chose en ouverture de son texte. On le sait, Christophe Colomb, qui n'est mort qu'une fois, le 20 mai 1506 à Valladolid, était né à plusieurs reprises et en différents lieux, aux environs de Gênes en 1451, à Barcelone à la même période, à Pontevedra en Galice, dans le village de Cuba au Portugal, et vers 1436 à Calvi en Corse. Jeanne d'Arc, quant à elle, qui était essentiellement née vers 1412 à Domrémy, dans le Barrois, est morte un certain nombre de fois, à plusieurs dates et en différentes occasions, réparties ça et là sur les cartes. Notoirement sur la place du Vieux Marché à Rouen, le 30 mai 1431. Mais aussi, quelque part au sud de Nancy, au milieu du XVe siècle, à Tichémont, près de Metz, vers 1480, en 1464, en un lieu demeuré inconnu, ainsi qu'aux environs de Saumur, en Anjou, après 1457. Rien ne dit qu'elle n'est pas également morte avant 1429, dans ses langes, une poignée d'heures après sa naissance, ou quelques années plus tard, enfant encore, saisi d'une vision qui l'aurait fait chuter sur le bord de la route menant de Domrémy à Vaucouleurs. C'est comme un fleuve dont la source est, dit-on, une infinité de ruisseaux ramifiés, et dont l'embouchure se répand quelquefois en une multitude de bras traversant chacun d'autres terres. À partir de ce postulat de départ, Anthony Poirot développe son texte de très belle manière et nous donne à lire, à comprendre qu'il y a eu un certain nombre d'apparitions d'une Jeanne d'Arc après le bûcher, avec la possibilité d'une imposture. C'est très troublant et très intéressant comme idée, et ça permet de comprendre d'autres vies et de comprendre aussi ce qu'il reste d'un récit commun. Dans la revue La moitié du fourbi, entre autres créateurs et créatrices, il y a, comme je le disais, et c'est sur la couverture, le travail de Clément Vullier. Quelques pages de son très beau livre « Terres rares » publié il y a un peu plus d'un an aux éditions 2024 sont reproduites dans la revue, et ensuite un petit essai d'Hugues Leroy qui revient sur le travail incroyable de cet illustrateur Clément Vullier, dont il faut absolument lire les très beaux ouvrages chez 2024. Il a aussi également très récemment illustré une republication de « Histoire des rivières et des montagnes » de Élisée Reclus aux éditions Relief. Je vous le conseille fortement. Et puis on trouve, et peut-être que c'est un nouveau venu, à ma connaissance en tout cas, dans la revue La moitié du fourbi, Sébastien Berlandis, dont j'ai beaucoup apprécié jusque-là les publications, à la fois chez Stock et chez Actes Sud. Ici, il propose un petit texte qui se balade en Italie, c'est l'été, il est question de se baigner, c'est une rencontre fortuite, c'est très beau, c'est très amoureux, c'est très sensuel et désirant. Et je ne vous en lirai pas un extrait, car je vais vous proposer autre chose de Sébastien Berlandis. Sachez que la revue La moitié du fourbi, littérature et appel d'air, ce numéro 13 de l'automne 2023, sous-titré une fois, vous coûtera 13 euros et c'est fort recommandable. Sébastien Berlandis donc, qui a eu la gentillesse de me faire envoyer son nouveau livre qui sort juste à la rentrée 2024, début janvier. Je l'ai lu, c'est un petit livre court, c'est aux éditions Actes Sud qu'il est publié. Il coûte 14,50 € et il fait quelques 75 pages. Un récit, comme souvent chez Sébastien Berlandis, très probablement teinté d'autobiographie, une narration à la première personne, mais on ne saura pas ce qui est faux, ce qui est vrai. Sébastien Berlandis, qui est professeur de philosophie, mais qui est aussi photographe et qui a un rapport très fort à l'image, a publié plusieurs récits, à la fois dans la collection La Forêt, que dirigeait Brigitte Giraud chez Stock, mais depuis quelque temps chez Actes Sud, notamment Des saisons adolescentes ou 16 lacs et une seule mer, dont j'avais parlé ici. Et c'est justement parce que j'en avais dit quelques mots, peut-être élogieux, que Sébastien Berlandis a eu la gentillesse de me faire envoyer ce nouveau livre baptisé Lungomare. Et c'est comme une relation amicale qui se tisse à distance avec le temps, par la voix de la radio et par la voix de ces quelques envois de textes. Il s'agit donc ici, comme finalement il était esquissé dans La moitié du fourbi, d'un récit qui se déroule l'été en Italie, où le narrateur arpente un certain nombre de paysages plutôt balnéaires, et justement il va faire toute une promenade depuis Gênes jusqu'à Porto Venere, ou à peu près, en compagnie d'une amoureuse, Annabella, qui va l'amener dans différents endroits, peut-être difficiles à trouver si on est un simple touriste. Encore que le narrateur n'est pas un simple touriste, il revient aussi sur les traces d'une enfance, d'une adolescence, d'un vécu, et du vécu de ses parents, qui sont ici représentés par des photographies. Le narrateur détaille les photographies où il voit son père et sa mère dans leur jeunesse, dans leur flamboyance, dans leur amour, et sur les mêmes lieux, ou presque, en tout cas de manière balnéaire, en plein été, comme des moments suspendus de joie, d'amour, de désir, et complètement insouciants. C'est un livre qui, même s'il laisse sourdre une certaine nostalgie et un fond de mélancolie, essaie de montrer la lumière et la beauté des instants présents qu'il faut savoir saisir. Et je trouve qu'il est très réussi pour ça, et aussi dans sa description des images, que ce soit les photographies, mais aussi les paysages qui entourent le narrateur, et de toutes les sensations qu'il parvient à capter, des nuances de couleurs, des odeurs, des touchers, quelque chose de très sensoriel, et évidemment du son, de la musique. Il y en a de la musique, et Sébastien Berlandis nomme d'ailleurs, en fin de livre, les quelques références très explicites qui ont ponctué le récit, que ce soit des chansons, des films ou des livres et quelques citations. On y retrouve notamment Lord Byron qui a une grande importance. Je vous livre un tout petit extrait de ce livre à sortir. Nous sommes page 19. Sous le transat et dans mes sacs, des quantités d'appareils, des pellicules photographiques, des films Super 8, je ne me soucie pas de les protéger, des carnets d'écriture. Je quitte les bains de l'hôtel pour arpenter seul le lungomare, le Rolleiflex autour du cou, écrire, filmer le roman de la plage. Cortège de mini-robes noires à pois blancs, short taille haute. Les garçons déploient leurs torses nus. La largeur des débardeurs fait apparaître des seins sans armature ni balconnet. Les gelati fondent pendant que les filles parlent entre elles, expliquent les absences, dénouent les incompréhensions de la nuit d'avant, me sourient. Je n'ose pas déclencher. Par dépit, je photographie les palmiers brûlés de l'hôtel Teresa, dernier hôtel de la baie. Je l'ai toujours connu fermé, l'aile ouest, elle aussi, incendiée. À 20h, les bains de l'hôtel ferment. Je tourne la caméra vers Annabella. Elle se prête au jeu. Prend la pose devant les cabines aux portes bleues. Attend que Sergio, le sauveteur, traverse l'allée, regard baissé. Elle soulève le bras gauche, main sur la nuque, découvre une aisselle noire, clic, j'arme à nouveau l'obturateur, le film avance, clac, une pellicule entière, Annabella ouvre la porte de la cabine 17. Plus tard, plus loin, juste avant la nuit noire, sur la plage des bains Teresa, une adolescente enchaîne les mouvements de gymnastique sous l'œil sérieux et doux du surveillant de baignade, transformé pour l'occasion en entraîneur sportif. Je ressors le Rolleiflex. Malgré la sensibilité faible de la pellicule, je crois en une image possible. La jeune fille nous voit, sur les dernières marches de l'escalier des bains. Elle hésite, se met en position. Deux pas d'élan, course rapide, rondade flip arrière, figure qu'elle répète 5 fois, avant de quitter le cadre et le bord de mer, sourire, salut de la main. Des heures encore à balayer au ralenti le lungomare. Sans mes lunettes, les silhouettes, les digues demeurent dans le flou. Prennent la consistance d'un mirage, à retrouver Gigi et nos Campari à la terrasse du Café Nelson. Vent d'est sur la plage libre, allongé dans le sable noirci par la nuit, les pins couronnent nos têtes, un été sans ombre. Una vita luminosa e più fragrante. La chanson, nul ne le conteste ici, colle au désir de chacun. C'était un petit extrait de Lungomare, livre de Sébastien Berlandis, publié aux éditions Actes Sud, à sortir tout début janvier 2024 pour 14,50€ et quelques 75 pages. Et la chanson dont il était question dans ce petit extrait, c'est « La collina dei ciliegi » de Lucio Battisti, que nous écoutons donc pour terminer cette chronique « Je lire ».
E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante. E quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché? Azzurra e lucente, ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno a un pallone, frenato e con un colpo di becco, ben aggiustato, forarlo e lui giù, 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 e noi ancora, ancora più su. Planando sopra boschi di braccia tese, un sorriso che non ha né più un'età. E respirando brezze che dilagano su terre senza limiti e confini, ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là, ora figli dell'immensità. Se segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie, ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide i sentimenti. Le anime non hanno sesso né sono mie. No, non temere, tu non sarai preda dei venti, ma perché non mi dai la tua mano? Perché potremmo correre sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina.
E giorno,
e dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno, farlo rotolar giù, 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 giù. E noi
ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese.
Che dilaga